création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Ils sont deux frères, Bernard et François. L'un et l'autre se sont intéressés à l'esthétique musicale et inventé des instruments qui provoqueraient de nouvelles émotions. Ils ont révélé le son de barres de métal ou de vessies de plastique gonflable. Nous leur devons un instrumentarium où voisinent l'étoile, le chandelier et bien sûr le célèbre cristal. À 23h30, nous entendrons aussi parler d'autres créateurs et d'autres instruments dans un documentaire de 1956. Mais tout de suite, place à Alexandre Bazin pour évoquer le parcours de Bernard Bachet, maître de recherche au groupe de recherche musicale de l'ORTF de 1962 à 1965, alors que Pierre Schaeffer préparait son traité des objets musicaux. Création On Air.
Bernard Bachet, au temps du traité des objets musicaux. Un documentaire d'Alexandre Bazin, produit par l'INA GRM.
La partie compositionnelle m'intéressait beaucoup.
Bernard Bachet.
On avait l'impression que depuis 1905, depuis l'école de Vienne, on était arrivé à une limite, si je peux dire, dans la composition. Et que pour en sortir, il y avait deux solutions. Ou bien l'écriture, c'est la voie qu'a choisi Boulez. Mais c'est une partie très intellectuelle. Et nous, on est plutôt des sensoriels, si vous voulez. Et la deuxième solution, c'était de partir avec des sons nouveaux qui permettaient à ce moment-là de moins travailler l'écriture et d'utiliser, si vous voulez, des systèmes d'écriture plus anciens et d'avoir quelque chose de nouveau. C'est le principe de la musique concrète, un peu, si vous voulez. Donc, c'est dans cette voie-là, si vous voulez, que je voyais la possibilité de régénérer, si je peux dire, la recherche musicale.
Avec Guy Rebel, François Bell, Béatrice Ferreira.
J'ai été très frappé par la musique concrète en 49-50. Je me suis dit, mais c'est formidable, cette ouverture sur les sons nouveaux. Et j'ai écouté toutes les émissions à l'époque, c'était Pierre Schaeffer qui avait ça en main. Bon, et je me suis accroché à ça, j'ai trouvé ça formidable.
Il existe à Paris, rue de l'Université, un immeuble de la radiodiffusion télévision française avec des studios dans lesquels des hommes travaillent sur d'étranges instruments.
Oui.
N'est-ce pas? De longues plaques de métal, des gongs, oui. Des appareils en forme de sculptures abstraites.
Des magnétophones.
Des magnétophones. Si bien qu'en entrant, on a un peu l'impression de s'aventurer dans l'antre d'un sorcier moderne, mais un sorcier de la science. Eh bien, ce sorcier, c'est Pierre Schaeffer, que nous avons ici, est directeur du groupe de recherche musicale de la radio-télévision française. Et les instruments dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle en termes techniques des objets musicaux d'origine acoustique.
Ça sert à faire des objets musicaux.
Faire des objets musicaux d'origine acoustique.
Les objets musicaux, ils sont immatériels.
Pierre Schaeffer a plusieurs cordes à son arc. Il est polytechnicien par devoir. Il est écrivain, musicien, mais surtout il est chercheur. Et il est chercheur de sonorités nouvelles. Autrement dit, notre hôte est l'un des pionniers de cette école musicale encore assez mal connue que l'on appelle la musique concrète. C'est un mot qui vous frappe, vous en avez tous entendu parler.
Vous savez que nous sommes plus seuls que nos amis.
Guy Rebel.
Alors Schaeffer, lui, il écoutait très bien. Il avait une oreille fantastique. Ça, je peux témoigner. Et il écoutait les sons qui pourraient constituer des exemples pour créer une typologie, une série morphologique, etc. On était complètement dans la morphologie, la typologie, tous les sons qui pouvaient illustrer le traité des objets musicaux qui a été une création de lui, qui était une sorte de grande œuvre de sa vie, c'est le traité des objets musicaux.
Schaeffer est quand même en tête depuis les années 60 de faire un traité des objets musicaux.
François Bell.
Un solfège de l'objet sonore, qui nécessitait d'avoir une grosse banque de sons, une grosse bibliothèque pour faire des exemples illustrant tous les cas de figure possibles d'un son, partant du son très très court, impulsionnel, jusqu'au son très très long, échantillonesque, et en passant par un certain nombre de catégories bien nommées, bien désignées, voir le tableau bien connu du traité des objets musicaux avec tous les attendus possibles et imaginables.
Alors, Schaeffer a dit, j'ai écrit en ce moment un ouvrage qui s'appelle le traité des objets musicaux, j'ai besoin de constituer une équipe autour de moi, de gens qui travaillent ce que moi j'appelle le solfège. Voilà. Moi, j'ai vraiment été engagé pour ça. L'équipe solfège s'est constituée avec Henri Carucci, est venue Béatrice Ferreira, que vous avez dû voir. Il y avait aussi une autre personne qui est passée, qui a disparu, c'était un peu folklorique, qui s'appelait Simon Rist, qui après a fait d'ailleurs une carrière en Allemagne, plutôt dans le domaine de la mise en scène, du théâtre, etc. Et puis Bernard Bachet.
J'ai travaillé pendant 3 ans à la musique concrète, et justement c'était mon travail, si vous voulez, de participer aux classifications des sons. Évidemment, ça m'intéressait vivement. Et la classification des sons qui ne peuvent pas être répertoriés, comme les sons habituels, par une fréquence fondamentale et ensuite un timbre simple.
Alors, Bachet était un homme charmant, délicieux, une sorte d'aventurier qui, lui, était un ingénieur, alors un vrai un centralien, je me rappelle de ça, et qui a beaucoup, les deux frères ont collaboré et ils ont créé dans un petit atelier qui était en dessous de la rue des Écoles, qui était en effet un atelier très, très extraordinaire à l'époque, parce qu'il y avait là-dedans ces instruments. C'est un côté très poétique, ces choses-là.
Donc il fallait que Schaeffer recrute une personne un petit peu plus posée et un peu plus un peu solide, parce que Bachet était un centralien, je crois, était un ingénieur, il inspirait confiance, il était un gestionnaire. Et ça a été un très bon choix.
Il a été tout naturellement en rapport avec le GRM. C'était quand même l'aîné, c'est quelqu'un qui avait 20 ans de plus que nous en moyenne, mais il était adorable, il s'insérait, il avait un humour fabuleux, il était très 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 habile, et finalement il mettait du lien entre Schaeffer, qui de temps en temps poussait des hurlements. Bachet, c'est quelqu'un qui va calmer un peu tout ce groupe. Et donc Bachet était là. Alors il n'avait pas un rôle clairement défini, mais il était là, il questionnait, il aidait un peu à formuler, à mettre en forme. On a toujours eu des rapports délicieux avec lui. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'en ai.
En 63-64, Bachet venait pour les instruments. Il racontait un petit peu comment il fallait s'en occuper, comment il fallait le faire sonner, etc., avec des archers, avec de ceci et cela.
Béatrice Ferreira.
Et il venait de temps en temps, en 64, au groupe de solfège, pour voir un tout petit peu ce qu'on faisait et comment ça s'est débrouillé. Mais il venait pour écouter, tu vois, pour voir un tout petit peu ce qui se passait. Mais à l'époque où on était à Sainte-Anne, ça, j'adore ça. On était à la rue Sainte-Anne, il y avait un appartement parce qu'ils déménageaient à ce moment-là de la rue de l'université là, et ils allaient au centre Bourdon. À ce moment-là, ils s'occupaient, ils venaient de temps en temps et écoutaient un tout petit peu ce qu'ils faisaient Schaeffer et les groupes qui étaient là. Après, je ne sais pas où il était, probablement en train de faire ses instruments.
Penser qu'il n'y avait pas de recherche fondamentale en instrument de musique depuis 1850. Il y avait eu des transformations. Si bien qu'avec mon frère, nous sommes penchés sur l'étude fondamentale de l'acoustique pour essayer. On a fait une analyse des instruments d'une façon qui n'avait pas été faite tellement jusqu'à présent. Et on a essayé de refaire une synthèse après. Et on a cherché expérimentalement un certain nombre de sons. Et c'était déjà à l'époque le début de la musique concrète, et j'étais déjà au courant de ce qu'il faisait. Et dans une cave, avec mon frère, nous avons entendu un son qui avait été fait avec un bout de ferraille et une vessie. Et brusquement, j'ai entendu toute la musique que l'on pourrait faire et que l'on a fait 10 ans plus tard. Je me suis dit, mais c'est formidable, parce qu'on arrive avec un bout de ferraille à faire ce que les autres font avec tout un studio.
et j'ai vu dans quoi on pouvait s'engager.
Alors, il y a eu des transitions comme ça, des petites activités transitionnelles pour accroître peut-être la palette sonore. Et effectivement, si on écoute les musiques des années 60, leur caractère métallique est assez évident. Bon, presque toutes les œuvres sont à base de sons métalliques, enfin des tôles. Il y a beaucoup de tôles. Il y en avait déjà dans les débuts de Schaeffer. Il y en avait déjà. Schaeffer aimait les tôles. Pierre-Henri aimait le bois. La différence entre, c'est très claire entre les sonorités chaudes de Pierre-Henri, qui se mettent ou électroniques froides ou chaudes, c'est-à-dire utilisant beaucoup le bois.
Mais je crois que c'est une chose que les gens ne savent pas, c'est que les instruments sont faits en fonction d'une esthétique musicale. Chaque civilisation se crée ses propres familles d'instruments. Et ce qu'il y a de formidable, si vous voulez, quelquefois, c'est de deviner ce que ressent un musicien ou un groupe de musiciens et de créer des instruments en fonction de ce qu'ils ressentent.
Ce qui intéressait à Schaeffer, c'était le fait que les sons... des cristaux, il avait des tôles. Je pense qu'à ces moments-là, Schaeffer lui avait demandé des instruments pour faire des prises de son, pour faire le solfège, pour faire pour les compositeurs qui étaient là, tu vois.
Alors d'abord, il m'a demandé de faire des instruments pour faire les sons, parce qu'il voulait faire son traité des objets musicaux, c'est-à-dire qui reposait en fait sur la classification des sons qui ne sont pas repérables par la gamme, si vous voulez. Là, c'est un problème un peu difficile à vous expliquer, c'est la composition des sons. C'est-à-dire que les sons musicaux, en général, sont des sons avec une fréquence fondamentale, bien déterminée, et des harmoniques. Donc il y a une quantité d'ordre qui est parfaitement déterminée. Dans les sons concrets, dans les sons qu'ils utilisaient, eux, c'est un désordre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fréquence fondamentale, et donc vous ne pouvez pas raccorder ça à une gamme, donc vous ne pouvez pas écrire ça sous la forme du 18e, enfin la forme classique. Et il voulait classifier ces sons-là. Alors il a fait un groupe de recherche dont il m'a nommé patron, enfin dont il m'a nommé responsable, où j'étais en rapport avec tous les compositeurs de l'équipe du GRM pour leur demander « donnez-moi votre sonothèque », ce qu'ils n'avaient pas envie de faire, mais qu'ils ont bien été obligés de faire.
À la limite des objets musicaux, une case modeste abrite cet être inesthétique sous l'étiquette d'échantillon. Tel est bien le disparate des effets, dû à une facture unique mais déplorable, ici un archet malhabile ou peut-être pervers. L'échantillon passera volontiers d'un excès à l'autre. Cet échantillon...
Donc, c'était pas tellement simple d'obtenir des compositeurs de produire des exemples, parce que ça allait dans les deux sens. Les compositeurs apportaient des sons, puis on essayait d'écrire, puis par ailleurs, il y avait des descriptions dont on demandait le son correspondant. Donc, il y avait un peu l'alternance du thème et de la version pour pouvoir aboutir à quelque chose qui serait un tri efficace. Mais bon, voilà, alors Bernard Bachet a bien géré tout ça et petit à petit, les moutons sont rentrés dans la bergerie et on a vu se faire petit à petit, se progresser cette activité-là.
Il y avait un banc de sons où tous les compositeurs qui faisaient la musique, qui faisaient des recherches, faisaient des sons et faisaient des enregistrements, donnaient à ces bancs-là certains sons. Alors il y avait des sons de Malek, des Ferrari, des Carson, des Bell, des Permet, de tout le monde. Et c'est dans ce banc-là où je donnais aussi des sons, et par exemple Guy Rebal aussi, j'en sais rien, mais je donnais aussi, c'est dans ce banc-là des sons de toute provenance qu'on avait pris les exemples pour le livre de Schaeffer. Si Schaeffer nous donnait ces textes, nous quatre, là, on regardait les textes un peu ce qu'elle disait, et puis on cherchait des sons dans les bancs, et puis voilà.
Les sons en question, ils étaient produits, récoltés pour nourrir la sonothèque didactique qui était le lieu où on réunissait le maximum de sons de toute provenance susceptibles d'illustrer le traité des objets musicaux en cours d'écriture, de conception et d'écriture. Ça a été très long et il fallait qu'il y ait des sons. Les sons, ça permettait à Schaeffer de formuler sa vision, sa pensée et de classer les choses et d'avoir toute une série de références qui d'ailleurs ont abouti à cette anthologie qui est ce solfège de l'objet sonore, enfin vous voyez ce que c'est, ce qu'on a fait.
Solfège de l'objet sonore. Prologue, les quatre éléments du solfège. Le son habite partout. Mais les sons, je veux dire les mélodies qui parlent la langue supérieure du royaume des esprits, ne reposent que dans le sein de l'homme. Ainsi s'exprimait Hoffmann à l'aube du romantisme.
Alors, nous avions, les compositeurs, nous avions à charge de produire des exemples sonores. Une petite équipe constituée autour du traité des objets musicaux se réunissait toutes les semaines pour discuter sur un appareil descriptif langagier. Alors, cette activité-là était relativement légère et pouvait très très bien se faufiler dans cette difficulté de locaux que nous avions à traverser. Et donc Bernard Bachet avait à gérer aussi, disons, la bonne marche, la bonne fin, l'accomplissement de cette tâche qui était délicate. En plus de ça, Bernard a pu gérer l'installation du GRM dans ses nouveaux locaux, ce qui impliquait notamment deux sortes de choses complètement nouvelles. La création de studios expressément conçus pour la fabrication de la musique électroacoustique. Et puis d'autre part, une importante activité de réunion de la documentation musicale, constitution d'une phonothèque.
Et quand on a déménagé au centre Bourdon, je me souviens que c'est après, je pense que c'est en 64 ou 65 qu'il est devenu chef du groupe du GRM. Je crois que c'est en 64.
Mais alors Bernard a été un parfait chef de groupe. Et alors de temps en temps, il y avait aussi l'idée Bachet de la question. C'est-à-dire, il avait, quand il y avait des prises de son, etc., il suggérait, on pourrait faire des. Pour les compositeurs qui étaient intéressés, on pourrait fabriquer des bidules, des corps sonores, un peu dans le style des instruments, mais beaucoup plus simple, c'est-à-dire des tôles tendues avec des câbles qui permettraient de jouer tantôt en tapant sur la tôle, tantôt en faisant des pids sur le câble, des tensions, etc., ou qu'on pouvait actionner avec des maillots ou avec des archers aussi bien, parce que sur une corde tendue, on peut faire toutes ces choses. Et avec des résonateurs plus ou moins coniques dont il avait la pratique, il savait faire, il avait les presses pour ça, ou la manière de rifter qui permettait de le faire, etc.
Nous avons donc coupé des tiges en métal qui avaient des longueurs différentes de façon à obtenir environ un octave, d'ailleurs non accordé, parce que dans cet instrument-là, ça n'a pas un intérêt fondamental. C'était un tout petit instrument. Puis alors, en travaillant avec des musiciens, car à partir du moment où nous avons quelques sons, on travaille avec le musicien qui l'emploie dans une musique. Cet instrument, donc, qui avait un octave, en a pris deux avec les musiciens avec lesquels nous avons, et ensuite, il est devenu tournant. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'à l'enregistrement, il y avait une direction dans laquelle il était plus fort que dans un autre. Alors, c'est François Bell, à l'époque, qui m'avait demandé d'en fabriquer un pour lui. Si bien qu'on a fabriqué pour lui un instrument qui avait deux octaves, qui tournait, etc., qui était donc plus complet que le premier. Évidemment, c'est là je vous cite le cas le plus simple et l'instrument le plus simple. Dans les cas plus difficiles, où on a travaillé avec Jacques Lasserie, où souvent on a travaillé sur un instrument pendant plusieurs années.
Bachet était plutôt mécanicien, était plutôt quelqu'un qui s'intéressait aux métaux, à la tôle, et fabriquait, mettait des vis, des boulons, enfin, a amené des tôles, des bidules de son atelier, de la rue des Écoles, là-bas, et dans ce studio qui a été, moi j'ai même connu celui de la rue de l'Université, bah, c'était étonnant, il y avait n'importe quoi là-dedans, il y avait toutes sortes d'objets les plus extraordinaires qu'on enregistrait, et souvent de très près. On découvrait donc les vertus du son, du grain du son, au chef Fermia. Et la matière sonore, c'est quelque chose qui suscitait une véritable ivresse. L'énormité des objets sonores fait qu'on changeait complètement d'échelle. On rentrait dans le son. Et on a fait des expériences sur, par exemple, le filtrage du fondamental. Qu'est-ce qu'on entend quand on prend un son? Alors, c'était des sons d'instruments. Et quand on enlève le fondamental? Alors, on a fait une découverte. Aux innocents, les mains pleines. On s'est aperçu que les sons graves, quand on coupe le fondamental, on entend à l'octave. Ce qui est l'expression du signal, d'ailleurs. Quand on prend dans le médium et qu'on coupe le fondamental, ça change le timbre. Quand on monte dans l'aigu, à une certaine zone, le son octavie, c'est-à-dire, il passe carrément à l'octave.
Pratiquons en effet le même filtrage du fondamental dans le médium et dans l'aigu du piano. La note médium, filtrée, est entendue au même degré, mais le timbre est gravement affecté. Dans l'aigu, le timbre est plus qu'affecté. La tonique passe à l'étage supérieur, la note octavie.
Alors que dans le grave, c'est le contraire, je veux dire, on ne perçoit aucune différence. On coupe le fondamental d'un son, il ne change pas. Voilà. Alors, on a publié ça, et on a fait des expériences. Alors, des expériences professionnel, c'est-à-dire avec des calculs d'écart-type pour vérifier et que les résultats étaient acceptables par une communauté professionnelle de physiciens. On a publié ça. Alors, pour monter les expériences, maintenant, on peut filtrer, on peut couper le son avec les techniques numériques, avec une très grande finesse. Mais à l'époque, c'était impossible. Il fallait mettre des filtres en cascade, parce que les filtres, il coupe, mais avec une pente de même pas 20 décibels par octave. Donc, il fallait au moins avoir 50 ou 60 dB par octave pour effectivement éliminer l'énergie d'une fréquence. On était vraiment des acousticiens, quand même assez... en un ou deux ans, surtout Carucci, on avait fini par acquérir un certain professionnalisme de la chose. Et avec des installations insensées, on faisait des filtres, cascades, des machins, c'était surréaliste. On a réussi à monter les gants, à le faire. Ça a été toute la partie de psychoacoustique de l'équipe Solfège. Et on a fait des expériences sur la perception de la durée et de la hauteur.
Mais la recherche fondamentale que nous avions, mon frère et moi, ou qu'avait la musique concrète, est un peu la même. C'est une recherche de sons différents. Et nous nous penchons sur le même problème, c'est ces sons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces sons? Mais au lieu de les faire avec l'électronique, nous cherchons à les faire, comme au XVIe siècle, avec des instruments que les hommes vont tenir dans leurs mains, et c'est avec la sensibilité de leurs doigts, la sensibilité de leur corps, qu'ils vont directement exprimer ce qu'ils ont dans l'âme.
Alors là, je voudrais dire qu'on a défendu fondamentalement la place de l'interprète, la place de l'homme dans la musique contemporaine. Et c'est ce qu'on voulait, c'était avoir des instruments qui nous donnent des sons qui rappellent un peu l'électronique, mais où la sensibilité du toucher, la sensibilité de l'homme puisse être exprimée directement. Ce qui n'est pas tout à fait possible avec l'électronique.
Bon, d'un commun accord, il n'y a pas eu de bruit ni de dispute. Bernard Bachet a senti qu'au fond, la relation avec les musiciens du GRM ne produisait rien de vraiment événementiel par rapport aux instruments. Il a bien compris que c'était une problématique très très différente, que nous ne travaillions pas du tout dans le monde de la de l'expression instrumentale. Les instruments bâchés, c'était bâché, mais c'était des instruments. Un instrument, c'est un interprète. Un interprète, c'est une virtuosité. C'est donc, ça nécessite par conséquent un dispositif qu'on ne bouge pas sans arrêt et sur lequel l'instrumentiste peut faire des progrès pour acquérir une virtuosité. C'était le cas de Lasry et de Madame Lasry sur l'orgue de tige de verre. Et à partir du moment où on acquiert une virtuosité, on ne peut pas la remettre en cause en cassant l'instrument, en le transformant sans arrêt, parce que ça en est revenu à la case départ tout le temps. Il fallait que l'instrument ne bouge plus. Ce n'est pas du tout le cas des musiques expérimentales des années parallèles à cette époque-là, où ce qui intéressait un compositeur quand il avait fait quelque chose, c'était de faire autre chose avec de tout autre son. Et donc, la notion de permanence instrumentale était en totale contradiction, en fait. C'est pourquoi Bernard Bachet, comprenant ça, a repris son itinéraire qui était propre et nos routes se sont séparées en gardant, il n'y a jamais eu l'ombre de quoi que ce soit que du positif de cette période.
Ce traité a été paru aux éditions du Seuil.
Pierre Schaeffer.
Paul Flamand, l'éditeur, a bien voulu l'accepter. Il était fort gros, il avait 600 pages, c'est-à-dire que ça faisait 1000 pages manuscrits. Et il s'adressait à la fois à tout le monde et à personne, puisque il traite aussi bien de la physique du son que de la psychologie de l'écoute, et pour finir, des perspectives de toutes les musiques possibles. De sorte que le traité est à la fois polyvalent, interdisciplinaire, pluridisciplinaire, et il a le grave défaut d'avoir embrassé un énorme horizon et de ne pas avoir visé aucun public.
Son traité des objets musicaux, qui est un bouquin formidable, c'est un traité à côté duquel les musiciens sont passés, en gros, ils ne l'ont pas vu. Il fait, mais très indirectement, référence au traité, mais le traité n'est pas un objet de référence. On parle de plein d'auteurs, bon, on parle des ouvrages de Schoenberg, on parle d'un certain nombre d'auteurs qui font référence dans la culture musicale, comme on peut le voir au conservatoire, dans les enseignements d'histoire de la musique, etc. Mais Schaeffer, quasiment pas. Il est là, mais je sais pas, je pense qu'il surgira un jour, parce que le traité, c'est quelque chose de très important. Mais le problème du traité, c'est qu'en effet, il n'est pas référencé à la musique, à la notation, à la grande histoire de la musique. Il n'est pas directement l'héritier, de Debussy, de Ravel, de Stravinsky, etc. Il ne l'est que globalement, par une espèce de perception globale, mais pas une perception en termes de musicien.
Réalisation Alexandre Bazin. Musique de Bernard Bachet et Michel Deneuve. Pierre Henry, Pierre Schaeffer, François Bell. Extrait d'archives. Musique de notre temps. Mémoire retrouvée. Solfège de l'objet sonore. Archivina, Annie Lozana. Remerciements, Catherine Bachet-Sueur, Brigitte Twillier, Christelle Rousseau, Daniel Teruggi. Thank you.
Dans Création On Air ce soir, Bernard Bachet, mais aussi d'autres créateurs liés à la naissance de la musique concrète. Nous devons à Pierre Schaeffer le phonogène ou le morphophone, mais seront évoquées aussi les créations de Philippe Arthuis, Pierre Henry, François Bachet, Maurice Marteneau, André Jolivet et Jacques Lasserie.
Dans la série « Le monde comme il va », la radiodiffusion télévision française présente « Instruments d'aujourd'hui », une émission de Charles Imbert et Fernand Lott, mise en onde de Lucienne Noblet.
L'homme a véritablement une âme de dompteur. Dans le domaine sonore, aussi bien que dans d'autres domaines, il a toujours cherché à discipliner les phénomènes de la nature, il les a souvent provoqués. La science aidant, des instruments nouveaux sont nés, et issus des moyens techniques nouveaux, est née la musique concrète, avec ses instruments aux noms bizarres, phonogènes, morphonogènes, ces instruments que certains appellent appareils, étant donné qu'ils considèrent qu'il n'y a pas une intervention directe de l'interprète.
Le lieu de travail, ici, c'est un laboratoire d'électroacoustique au studio d'essai de la radiodiffusion française, rue de l'Université.
Donnant la dénomination officielle du service que dirige Pierre Schaeffer, groupe de recherche de musique concrète de la RTF. Le décor, des tableaux de commande, des fils, des câbles, des coffrets métalliques à cadrans, à manettes, à voyants lumineux. Philippe Arthuis, adjoint de Pierre Schaeffer, nous reçoit. Une première question, Philippe Arthuis, que signifie exactement l'expression « musique concrète » ?
Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord dire que les deux termes « musique » et « concret » vont en général assez mal ensemble. C'est pourquoi je voudrais répondre en trois fois. Je dirais d'abord que la musique concrète, c'est l'art de soumettre toute source sonore à des manipulations électroacoustiques par lesquelles on obtient de nouvelles structures qui sont alors composables comme les motifs, thèmes et rythmes de la musique traditionnelle. Ce qui nous permet de distinguer deux plans. Le plan du mot concret qui signifie pour nous pèlerinage aux sources, c'est-à-dire retrouver dans la nature des sources naturelles de bruit ou dans les instruments de musique les sources artificielles. Ce qui nous donne un clavier bien plus étendu que la musique traditionnelle qui n'a que les instruments.
Oui.
D'autre part, le mot musique qui signifie, comme en musique traditionnelle, agencement des sons, pas sur les plans des timbres, de l'harmonie ou du contrepoint.
Et alors ce pèlerinage aux sources, comment l'entreprenez-vous ?
Eh bien, nous l'entreprenons de façon fort différente, soit à l'intérieur de studios d'enregistrement, à l'aide de micros, soit dans la nature. Pour mieux faire comprendre ce que j'ai voulu dire, je voudrais prendre une comparaison. La musique concrète est à la musique traditionnelle ce que le cinéma est au théâtre, c'est-à-dire une nouvelle dimension. Et ce que pour le cinéma est la pellicule, la bande magnétique l'est pour nous, c'est-à-dire le support indispensable à tous nos travaux.
Alors, autre question, cette bande magnétique, comment la nourrissez-vous ? Autrement dit, quels sont les principaux appareils que vous utilisez ? Je vois ici sur cette table un dispositif comportant un petit clavier aux touches d'ivoire et d'ébène, identique à celle d'un clavier de piano. De quoi s'agit-il exactement ?
Cet instrument qui est essentiel pour nous s'appelle le phonogène.
C'est une invention de la maison.
C'est une invention de Pierre Schaeffer et de Jacques Poulain. Cet instrument est un instrument transpositeur.
Mais vous employez encore d'autres moyens pour modifier les timbres à votre guise, pour obtenir certains phénomènes d'écho, par exemple.
Oui. Pour faire varier les timbres, en musique concrète, nous employons ce que nous appelons des filtres de fréquence. Ces filtres sont, à proprement parler, des sécateurs, c'est-à-dire qu'ils laissent passer, suivant la volonté de l'opérateur, un certain nombre de fréquences. Alors, pour compléter la variation des timbres en musique concrète, nous avons aussi une chambre d'écho. Cette chambre d'écho est un système très simple. Vous envoyez le son dans une cave rigoureusement fermée. Elle sort par un haut-parleur et captée par un micro. Et entre-temps, le son s'est promené le long des murs, et en faisant varier la puissance d'un potentiomètre, vous obtenez une variation plus ou moins grande, l'effet de cathédrale, bien connu d'ailleurs des auditeurs de radio. Mais cette chambre d'écho a l'avantage pour nous de posséder une gamme de filtres avant l'envoi du son dans cette chambre et à la sortie de la chambre d'écho, ce qui permet de faire varier en même temps le timbre de la réverbération elle-même.
Vous nous faites entendre quelques-uns de ces effets.
Alors, je vais vous faire entendre quelques exemples, et pour mieux préciser, puisque nous avons parlé tout à l'heure d'une comparaison avec le cinéma, je vais vous proposer deux exemples de filtres. Voulez-vous une image floue, sous-exposée, du normal au clair-obscur? Ou au contraire, surexposé, où les couleurs peu à peu s'estompent jusqu'au blanc, où l'on distingue à peine les contours. Pour la chambre d'écho, voici trois exemples. Voulez-vous une image lointaine, mystérieuse, étouffée? Ou bien éclatante? Ou bien doucement éteinte.
Vous mettez au point, je crois, un morphophone. Que demanderez-vous à celui-ci?
Le morphophone, qui a été conçu par Jacques Poulain et Pierre Schaeffer, est un instrument qui, comme son nom l'indique, doit nous permettre de faire varier la forme des sons. J'insiste sur cette notion de forme que ne possède pas la musique traditionnelle, étant donné qu'un son en musique traditionnelle ne peut être entendu que dans le moment où il passe. La possibilité que nous avons de le capter sur des bandes magnétiques, de le découper, de lui donner une certaine distance en centimètres, nous permet d'envisager de faire varier les paramètres de ce son au cours de son passage.
Je voudrais maintenant donner à écouter à nos auditeurs Boîte à musique de Philippe Arthuis, qui est ici parti d'une seule source sonore, en l'occurrence quelques sons isolés de boîte à musique. Ceci illustre parfaitement la merveilleuse liberté du compositeur concret en possession des nouvelles méthodes dont nous venons de parler. On peut proclamer que la musique concrète a décidément acquis droit de cité. Les techniques de la radiodiffusion et de la télévision ont aujourd'hui grandement bénéficié de ces applications. Elle leur a déjà apporté une importante contribution quant au programme. Elle s'est également manifestée avec succès au cinéma, comme au théâtre. L'étranger s'y intéresse et maints concerts ont été accueillis avec faveur en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Hollande, en Espagne. Les jeunesses musicales des divers pays se trouvent en rapport constant avec le groupe de recherche français. Et récemment, avenue de Wagram, ce n'est pas avec Brahms ou Rossini que la compagnie des ballets de l'Étoile a le mieux séduit son public, mais avec les œuvres étranges de Pierre Schaeffer et Pierre Henry, démiurges d'un nouvel univers sonore. Ici, il n'y avait point de musiciens dans la fosse d'orchestre. Escamotés, les cuivres, les bois et les cordes. Au centre, à la place du pupitre, il n'y avait rien que la boîte d'un magnétophone déroulant son ruban magique, surveillé par Pierre Henry, qui se contentait, chef sans baguette, de tourner de temps en temps des boutons pour modifier le niveau sonore, nuancer les effets distribués par six haut-parleurs, assurant, réparti dans la salle, le relief stéréophonique.
On m'a conté l'autre jour un instrument fort curieux. Cet instrument était tout simplement un orgue à gaz. Il s'agissait tout simplement de quelques becs de gaz dans des tubes, ces becs faisant quelques bruits curieux, et le tout manié par un clavier qui lui-même maniait des robinets. Il faut dire que les inventions les plus bizarres ont pu apparaître. Elles ont parfois servi a apporté quelque chose à la musique, d'autres fois elles ont sombré dans un oubli total. Je suis chez Jacques Lasserie, qui est compositeur, pianiste, et je vois chez lui cet instrument que je vais vous décrire. C'est un instrument composé d'éléments pneumatiques, un peu, qui ressemblent un peu à des petits coussins de camping, et sont rouges et verts, et puis cet instrument est hérissé de barres de fer, et également de ressorts, et aussi de tiges de cristal. Ceci est posé de part et d'autre du piano. Sur le piano même, il y a aussi une série de tiges qui sont un peu comme des ressorts. Et je vais demander à Jacques Lasserie de me dire quel est le nom de cet instrument.
Le nom de cet instrument, de ces instruments plutôt, n'est pas encore trouvé parce que...
On cherche toujours. Et vous n'êtes pas, vous êtes le musicien qui a adapté l'instrument, mais vous n'êtes pas l'inventeur de cet instrument.
Non, l'inventeur c'est...
François Bachet. François Bachet qui est ici. Alors vous n'avez toujours pas trouvé de nom, François
Bachet. Non, nous cherchons plutôt des nouveaux sons plutôt que des nouveaux noms, mais ça viendra tout seul.
Bon, ça viendra tout seul. Alors cet instrument, je voudrais que vous m'expliquiez un peu, moi je l'ai décrit très, très extérieurement, mais que vous m'expliquiez de quoi il s'agit exactement et pourquoi vous avez conçu un tel instrument.
Le problème a commencé lorsqu'il a paru évident, en compulsant les textes, que depuis 150 ans, on avait simplement inventé, au point de vue... instrument de musique pouvant servir dans un orchestre, le saxophone et la scie musicale. Je fais abstraction de la musique concrète et de la musique électronique. Et pendant ces 150 ans, la musique a subi tellement de transformations que finalement on est en retard. On ne peut pas jouer de la musique du XXe siècle avec des instruments du XVIIIe.
Et d'ailleurs, votre instrument est entièrement mécanique, n'est-ce pas?
Il n'est pas électronique. Alors, le principe est le suivant. J'ai utilisé l'amplificateur pneumatique que j'avais utilisé pour la guitare pneumatique.
Ah oui, c'est vous qui aviez inventé, c'est présenté à la Foire de Paris, je crois, même, non?
Au concours Lépine.
Au concours Lépine, la guitare pneumatique.
Exactement. Mais alors, maintenant, c'est un truc extrêmement sérieux, comme vous voyez, pour la musique sérieuse. Alors, le principe est le suivant. Je crée une vibration qui correspond à un son dans ce cadre, et je fixe à ce cadre un certain nombre d'éléments de forme et de composition métallique extrêmement définie. Et alors, lorsque cette vibration a été mise, elle se répercute dans ces éléments divers que vous voyez là.
Oui, et la réveille. Ces tiges de fer,
c'est ça.
Dans ces
et ça sorts. Réveille par sympathie. Ce ne sont pas exactement des harmoniques, ça s'appelle des partiels, qui ne sont pas dans la série harmonique classique. Vous avez par exemple des accords. Tout à l'heure, Jacques Lasserie va vous donner un exemple. On entend l'octave, la quinte, des choses extrêmement
compliquées. On va demander à Jacques Lasserie de nous le donner. Il faut que je vous explique que pour donner ces sons, Jacques Lasserie frotte avec des doigts humides. D'ailleurs, il y a une petite coupelle remplie d'eau à côté de lui. Il frotte des tiges de cristal et c'est ainsi qu'il émet le son, un peu comme on fait souvent à table. Ça c'est pas recommandé d'ailleurs, sur les verres en cristal, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez autre chose à me dire sur l'instrument lui-même?
Non, sur l'instrument, simplement que c'est simplement les ancêtres et que nous avons un grand programme. Nous allons construire une quantité parce que nous avons trouvé un principe que nous, comme je l'ai patenté d'ailleurs par tous les côtés, nous allons l'utiliser à fond et Jacques Lasserie va être bientôt chef d'orchestre de quantité d'instruments de musique nouveaux.
Eh bien oui, parce que Jacques Lasserie m'a dit tout à l'heure, il ne m'a pas dit l'instrument, il m'a dit les instruments. Effectivement, ici il y a trois éléments, ça n'est pas le même instrument?
Non, il y a un instrument pour la percussion qui est sur le piano, qui est accordé normalement comme le piano, et il y a deux autres instruments à droite et à gauche, un tube de verre, l'un pour les graves, l'autre pour les aigus.
Bon, mais alors, vous allez pouvoir multiplier ces instruments, Monsieur Bachet.
Vous parliez d'orchestre. C'est mon projet.
Et de faire un orchestre uniquement composé d'instruments de la sorte.
C'est ça, oui. Je crois que nous allons bientôt remplacer le piano par autre chose, mais enfin pour
l'instant... Même le piano, mais pour l'instant, le piano n'est pas remplacé. Je peux demander à Jacques Lasserie de nous jouer quelque chose à l'aide du piano et de ces trois éléments d'instruments nouveaux. seul l'avenir nous dira si tous ces instruments nouveaux ont leur raison d'être. Et, en l'occurrence, l'avenir est personnifié par les compositeurs, par les musiciens qui vont utiliser ou qui ont déjà utilisé ces instruments modernes. Il est un cas de nos dernières années, qui est très probant, d'une invention qui est passée dans les mœurs, dirais-je, les mœurs des compositeurs, puisqu'ils l'ont utilisée à maintes reprises. Ce cas, c'est celui de l'onde Martenot. Nous sommes justement ici dans le studio de M. Martenot, qui est l'inventeur de cet instrument et qui va nous en donner tout d'abord une définition.
Le Martenot est un instrument radioélectrique. Il crée des vibrations à l'aide de lampes analogues aux lampes de radio.
Je crois que si vous nous donniez quelques précisions sur la manière dont vous l'avez inventé, dont vous l'avez créé, je pense que nos auditeurs comprendraient très bien quel est cet instrument.
Eh bien, cela remonte assez loin. Les premières idées remontent à la fin de la guerre 14-18, où, mobilisé dans la radio, j'ai, au moment où on a commencé à utiliser des lampes électroniques, j'ai remarqué l'extrême pureté que l'on obtenait avec ces lampes, en faisant interférer des oscillatrices entre elles.
C'était d'ailleurs cette période où les postes de radio sifflaient beaucoup, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le sifflement un peu entre...
Oui, très exactement. C'est cet affreux sifflement infiniment désagréable que les Hollandais appellent d'ailleurs le cri du chien mexicain. Et ce sifflement qui ici a été enfin domestiqué, dompté, nous dirons, pour devenir vraiment de la musique.
Je vais décrire l'instrument sous son aspect extérieur. Eh bien, il ressemble à un petit piano avec un clavier comme un piano, noir et blanc. Et puis, barrant ce clavier, il y a une bande qui est une bande de toile. Et d'un côté, d'ailleurs, il y a une sorte de lassage métallique, n'est-ce pas? Et un curseur. Alors, à quoi sert cette bande au-dessus du clavier?
Eh bien, dans cet instrument, il y a deux formes de jeu tout à fait distinctes. L'on peut jouer directement sur les touches de ce clavier minuscule, ou bien ne pas se servir directement des touches, mais s'en servir comme point de repère seulement. Dans ce cas-là, l'on place l'index de la main droite dans une bague, que vous apercevez ici,
oui,
et qui entraîne le ruban dont vous parliez il y a quelques instants. Ce ruban permet de faire varier le son sur une très grande étendue et d'une façon tout à fait continue.
Est-ce que nous pourrions avoir un exemple tout de suite?
Oui, c'est facile, volontiers.
Alors ceci avec la bande, n'est-ce pas?
Oui, ce que nous appelons le jeu ruban.
Le ruban. Eh bien, ceci absolument sans l'intervention des touches.
Sans l'intervention des touches, n'est-ce pas? C'est une forme de jeu de caractère un peu vocal. N'est-ce pas? En réalité, tout ce que l'on peut chanter, on peut le traduire de cette façon.
Alors maintenant, voulez-vous me donner un exemple avec les touches?
Si vous voulez.
Bien, je crois que dès à présent, nous pouvons dire de cet instrument qu'il a un son tout à fait à lui. C'est un instrument qui n'imite absolument rien, n'est-ce pas, Monsieur Martenot?
Non, le but n'est pas d'imiter les instruments traditionnels, mais de créer des timbres nouveaux, des sonorités tout à fait différentes de celles des instruments traditionnels, qui sont autant de couleurs nouvelles dans la palette de l'orchestre.
Alors, est-ce que maintenant nous pourrions écouter quelques possibilités de cet instrument? Car les possibilités sont très grandes.
Eh bien, parmi les possibilités, je crois qu'il serait amusant pour les auditeurs d'avoir une idée de l'étendue de cet instrument. Par exemple, en descendant depuis le la du diapason, en descendant jusqu'au registre le plus grave. quartia lut du violoncelle, n'est-ce pas, la note la plus grave du violoncelle. Nous arrivons là une octave au-dessous de lutte du violoncelle, mais on peut encore descendre plus bas et atteindre ce que nous appelons la région des infrasons, et même décomposer la vibration qui devient alors comme un battement métronomique. À deux périodes par seconde, ça n'est plus de la musique, bien entendu, mais c'est amusant de se rendre compte que ce battement, ce choc, et c'est grâce à ce choc que nous obtenons ces sons très purs, au contraire, dans des registres plus élevés.
D'ailleurs, des sons très purs et aussi très précis, car vous pouvez aussi arriver à nous faire entendre d'une manière très précise le quart de ton, n'est-ce pas ?
Oui, c'est impossible, et particulièrement intéressant pour la musique orientale ou pour des œuvres contemporaines qui sont écrites avec le quart de ton.
Oui, oui, j'aimerais bien l'entendre.
Voici d'abord le demi-ton. Le demi-ton, n'est-ce pas ? Quart de ton. On peut entendre le huitième tout aussi clairement.
C'est assez extraordinaire parce que cette précision qui est très sensible, et c'est dû à quoi ? Que ce soit beaucoup plus sensible sur l'onde Martenot que sur un autre instrument ?
Eh bien, la raison est très simple. Plus les sonorités sont pures, meilleure est la perception de la hauteur du son. Ainsi, on sait très bien que accorder une timbale, par exemple, n'est-ce pas, un instrument à percussion comme la timbale, est chose très difficile. On discerne même un demi-ton tout juste. Alors, accorder aussi des instruments comme la contrebasse dans le registre grave rend la chose difficile parce que le son est chargé de quantités d'harmoniques et même de bruit qui ne permet pas la perception très claire de la hauteur du son elle-même.
Pourriez-vous nous donner maintenant un exemple des sonorités les plus caractéristiques de cet instrument, M. Martenot ?
Si vous voulez, un aperçu de sonorités que nous appelons métallisées. En voici une sur un thème cambodgien. Avec des sonorités proches de celle-ci, nous pouvons enchaîner maintenant avec un thème, cette fois tibétain.
Mais avant que vous donniez cet exemple, je vous vois actionner des petits boutons qui se trouvent dans un tiroir, en somme, n'est-ce pas ? C'est un tiroir qui sort de cet instrument. Et à quoi servent ces petits boutons ?
Eh bien, ces petits boutons qui se manient très aisément sous les doigts de la main gauche permettent de varier justement les combinaisons de timbres, de modifier complètement la qualité du son. N'est-ce pas ? Et ces combinaisons sont innombrables puisque chacune des combinaisons se multiplie par le jeu des autres.
Oui, et je vois aussi une sorte de pédale sur la gauche.
Oui, c'est à vrai dire plutôt une genouillère qui permet d'avoir l'intensité du son donné simplement par le genou. Mais nous préférons le jeu avec le doigt en général, parce que le doigt est infiniment plus sensible.
Plus sensible, oui.
Seulement, lorsqu'on veut donner des effets avec le jeu des deux mains, car l'instrument est monodique, mais néanmoins, on peut aussi donner des effets vraiment polyphoniques ou harmoniques, eh bien, cette genouillère permet de l'obtenir ainsi.
Bon, alors nous vous demandons maintenant l'exemple de sonorité nouvelle. Je vous demande le titre.
Sur un thème tibétain, simplement.
présent, Monsieur Martineau, pourriez-vous me situer cet instrument dans la musique traditionnelle, c'est-à-dire quelle est l'utilisation de cet instrument dans cette musique et dans les différentes formes de musique?
Bien, l'instrument à l'heure actuelle était employé dans un nombre assez considérable d'œuvres symphoniques, d'œuvres lyriques, de musique de scène, de ballet, d'œuvres de musique de chambre également, et d'œuvres musique religieuse.
Je crois que le premier metteur en scène qui a utilisé cet instrument, c'est Charles Dullin, n'est-ce pas?
Oui, oui, en effet, au Théâtre de l'Atelier, pour des œuvres extrêmement intéressantes. Et à propos de certaines d'entre elles, nous avons relevé une critique d'Émile Villermoz qui situe très bien la position de l'instrument par rapport aux instruments traditionnels. Il dit ceci: les instruments traditionnels sont chargés d'impondérables et imprégnés de souvenirs qui les spécialisent. La flûte, le cor, le hautbois ont un passé, un héritage et des traditions littéraires et picturales dont on ne les débarrasse pas aisément. C'est la raison pour laquelle, à l'aide de sonorités très différentes de celles des instruments traditionnels, nous pouvons souligner l'action dramatique, soit dans le film, soit dans la musique de scène.
Et à l'heure actuelle, il y a un très grand nombre de compositeurs qui ont écrit des œuvres symphoniques pour...
Nous en avons fait le recensement, si je puis dire, il y a quelques mois, et le chiffre atteignait 260.
Alors, est-ce que nous pourrions avoir un enregistrement d'une de ces œuvres pour en donner un extrait, tout simplement, à nos auditeurs?
La plus récente est le concerto d'André Jolivet pour Ronde Martineau, interprété par Ginette Martineau, ma sœur.
Vous venez d'entendre Instruments d'aujourd'hui, une émission de Charles Imbert et Fernand Lotte, mise en onde de Lucienne Noblet.
Demain à 23h, rendez-vous avec Hélène Azéra. Mercredi prochain, dernier appel d'une cabine par Hélène Laurent et Gaël Gillon. Jeudi, dans l'atelier de création radiophonique, Rodko, par Olivier Mélano, Claire-Ingrid Cotenceau et Christine Digère. Et tout de suite, Philippe Garbi pour les Nuits de France Culture.